Le collectif C'est Nous, regroupement d'associations hip-hop et d'artivistes, en lien avec des associations locales et nationales qui luttent contre les discriminations, organise une série d'émissions et d'échanges du 29 mars au 1er avril à 13h, en finir avec les contrôles au faciès, des solutions en droit, sur News FM et sur marumedroit.org.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur News FM. Aujourd'hui, c'est la première émission d'une série de 4 rendez-vous pour parler des discriminations et du problème du contrôle au faciès. 4 émissions d'une heure jusqu'à jeudi avec des invités en studio et par téléphone. Cette première émission est consacrée à l'action de groupe de janvier 2021 et portée par 6 ONG, Amnesty International, Human Rights Watch, Open Society Justice Initiative, MCDS, l'association d'Omer Mas Capitolin qui est présent aujourd'hui, et Pas à Pas, et aussi l'association Réagis de Lyon. On entendra ces associations durant ces 4 jours sur les enjeux de cette procédure juridique et les solutions quant à la modification des politiques publiques pour en finir avec le contrôle au faciès. Pour commencer dans la bonne humeur sur un sujet aussi grave, Lady Psy, notre chroniqueuse, est aussi présente avec nous. Bonjour.
Bonjour. En fait, il paraît que vous allez parler du contrôle au faciès, tu viens de le confirmer. Alors, comme je ne suis pas concernée, j'ai eu envie de vous donner mon opinion. C'est vrai, on n'entend que l'avis de ceux qui sont contre, sous prétexte que ça serait discriminatoire. Mais moi, je les comprends, les flics. Parce que je suis pareil. Je reconnais les voitures à leur couleur. Et alors, avec les gens, idem. J'ai jamais été physionomiste. Du tout. Mais vraiment, Quand mes gamins jouaient dehors, je les reconnaissais à leurs vêtements. Et c'est depuis toute petite. Je ne vous raconte pas le nombre de fois où j'ai failli repartir avec une inconnue quand j'accompagnais ma mère aux courses. Et puis c'est pas de sa faute au flic, il obéit aux ordres. On lui dit des noirs et des arabes. Allons-y pour des noirs et des arabes, tant pis. C'est pas qu'il est sectaire, Il est juste discipliné, le gars. On lui dirait des juifs, il irait aussi, Il s'en fout, lui, du point Goodwin. Je sais même pas si c'est ce que ça veut dire, déjà. Non, il le fait pas par plaisir. Sinon, il contrôlerait toutes les jolies blondes qui prennent un bain de soleil au parc Paul Mistral. Il n'est pas maso de base. Sado peut-être, mais pas maso. Tu choisis rarement d'entrer dans la police pour la partie du travail où c'est toi qui t'en prends plein la gueule. Et alors, c'est d'une hypocrisie d'être contre le contrôle au faciès. Mais parce que on le fait tous, assumez-le. Et qui se voit proposer un rencard via une appli de rencontre sans avoir mis une seule photo? Qui n'a pas refusé de faire connaissance avec quelqu'un après avoir vu sa photo? Qui n'a jamais refusé de sortir avec une femme qui ne s'épile pas sous les bras parce que la légende urbaine veut que si les aisselles sont poilues, le reste l'est aussi? Ça va, on aura compris, messieurs. Maintenant, vous avez les moyens de vous acheter du fil dentaire, c'est bon. Moi, je me souviens d'une époque où vous étiez bien content que ça vous soit fourni gratuitement. Alors, on le fait pour le faciès, on le fait pour le genre aussi. Wow, une jolie poitrine. Eh non, c'est un obèse avec des cheveux longs. On le fait pour le sexe. Et là, je ferme ma gueule, parce que je ne suis toujours pas foutue de faire un créneau. On le fait pour le style vestimentaire. Si je vous dis treillis déchiré, coupe à l'arrache, vous allez me répondre tougher. Eh non, loupé, c'était éducateur canin. On le fait pour le métier. Il fait de la politique, donc c'est un escroc. Là, je vous laisserai juger. On le fait même pour la classe sociale. Il n'a pas de dons, il doit être pauvre. Eh non, il vient juste de se faire péter la gueule par le gars qui lui a volé sa Rolex. Tu vois pas qu'il perd du sang? Dans les quartiers, c'est ce qu'on appelle le principe du ruissellement. On le fait pour tout. Alors, c'est peut-être d'ailleurs le moment de préciser que toutes les noires qui attendent le tram E le soir ne sont pas toutes des putes, en fait. Vous voyez, parfois, il y a aussi juste des petites nanas qui partent en soirée, quoi. Eh oui. Alors si vous pouviez arrêter de leur faire peur, ce serait sympa, merci. Vous voyez bien qu'il ne suffit pas d'arrêter le contrôle au faciès pour arrêter d'en faire. Et pour empêcher ce type de contrôle, la solution, ça serait quoi? On copie l'idée du CV anonyme? On invente la personne anonyme? Allez hop, tous en burqa, avec un voice coder aussi, pour qu'on n'identifie pas si c'est un homme ou une femme. Elle va être belle, la société de demain. Déjà qu'on est passé de l'intégration à l'assimilation, le futur, ça serait une société de conformisation. Mais allons-y, en route pour le nouvel eugénisme social. Alors oui, 3 fois oui, vive le contrôle au faciès. Par contre, sérieusement, vraiment, arrêtez de flipper de mon chien sous prétexte que c'est un bull terrier. Oui, il est impressionnant. Non, il n'est pas méchant. Il est même pas catégorisé. Et vous me saoulez avec vos préjugés de race, là, c'est relou. Il mérite pas ça, mon doudou. Il faut vous le dire en quelle langue? C'est pas la race qui fait que le chien est méchant, c'est la façon dont on prend soin de lui. Allez, des bisous, ça vous détendra.
Merci beaucoup Lady Psy. On va rebondir sur toutes tes remarques et laisser la parole à nos invités qui sont à la fois de Paris et de l'agglomération grenobloise. Pour rappel, la multiplication des rassemblements contre le racisme et les violences policières a contraint l'exécutif français à sortir de son silence. Le président Emmanuel Macron a enjoint le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, qui a décrété la tolérance zéro contre le racisme dans les forces de l'ordre il y a un an. Qu'en est-il aujourd'hui? Et pour répondre à cette question, On va laisser la parole à Omer Mascapitolin, président de l'association MCDS, Maison communautaire pour un développement solidaire à Paris, et qui fait partie des plaignants de cette action de groupe en ligne avec nous depuis Paris. Bonjour Omer.
Bonjour à toutes et tous. Donc oui, nous on est engagés, ma structure et moi-même nous sommes engagés à côté de d'autres sur cette action de groupe, parce que ça fait des années qu'on lutte pour essayer de faire bouger les choses. On a une partie de nos batailles qui sont, je dirais, déjà gagnées, puisque le contrôle aux faciès est reconnu aujourd'hui. On peut plus nier le contrôle aux faciès, même s'il y a beaucoup de syndicats de police, de policiers qui s'égosillent encore. Mais la justice a tranché, donc le contrôle aux faciès est reconnu comme a été condamné en 2016. Slim vous en dira plus. L'État a été condamné pour faute lourde. Donc le profilage ethnique, ça veut dire le fait qu'on contrôle une part des citoyens à cause de leur origine supposée. Les diverses condamnations auprès du Conseil national des droits de l'homme, du CCNDH, font que sous cette question du contrôle aux faciès, c'est tout, ça y est, c'est, je dirais, c'est des batailles gagnées. Par contre, obtenir les réformes structurelles de la part de l'État, ça c'est une bataille qui est en cours. Et malgré les morts, les vidéos qu'on voit régulièrement, pour citer la dernière, l'affaire Zecler, on se rend compte que ça ne bouge pas encore. Et comme disait l'autre, hein, le combat, le séculaire combat pour la liberté, l'égalité et la fraternité n'est jamais entièrement gagné. Et que c'est tous les jours ça vaut la peine de le livrer. Donc voilà.
Merci beaucoup, Omer. Merci. Et nous avons également par téléphone depuis Paris, Maître Slim Benachour, spécialiste des questions d'égalité et de discrimination, avocat au barreau de Paris. Pourquoi avoir lancé une action de groupe contre l'État et qu'est-ce que vraiment une action de groupe, Maître Slim?
Bonjour, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez d'abord?
Oui.
Des difficultés. Ah, ok, parfait. Pourquoi une action de groupe? Eh bien, parce que tout ce qui a été fait, que ça soit sur le plaidoyer, que ça soit sur le contentieux, si ça participait, contribuait, mis sur la place publique de cet enjeu, ce scandale démocratique, eh bien, pour autant, l'État n'a jamais véritablement pris des mesures permettant de régler le problème, hein, tout simplement.
Et donc, pour appuyer ces propos, nous avons aussi ici dans les studios avec nous Madame Asnia. Bonjour.
Bonjour.
Et vous êtes maman de victimes contrôlées de manière discriminante à Grenoble. Vous allez nous dire ce qui s'est passé et pourquoi vous participez à cette action de groupe. Et pourquoi pour vous, cette action de groupe est importante? Asnia, on vous écoute.
Oui, tout à fait. Donc, je suis la maman de Wissem, donc, qui a été contrôlé. En fait, il avait été contrôlé deux fois. Hein, donc, il venait d'avoir à peine 18 ans. Donc, une première fois, c'était à la gare de Lyon-Perrache. Donc, il préparait le bac, dans le cas de Parcoursup, il s'apprêtait à aller à un entretien pour un IUT. Et donc, sur le retour, au moment de prendre le bus pour revenir à Grenoble, et ben, dans le lot de passagers qui s'apprêtaient à monter dans le bus, des policiers sont intervenus, plusieurs, et ils l'ont contrôlé, lui, et puis un autre homme de couleur, un noir et un arabe, en fait, hein, qui présentait ce faciès-là. Parce qu'il m'en a pas parlé tout de suite, hein, je l'ai su plus tard. Donc ça a été le premier contrôle. Le deuxième, quelques semaines plus tard, il venait juste d'avoir son bac, en fait, hein, donc un jeune, à peine 18 ans, qui a toute la vie devant soi, voilà, qui fait des projets. Et puis il sortait d'un magasin avec un copain à lui, également typé noir, et sortait d'un magasin, place Grenette. Et puis des policiers les ont entourés, étonné quand même, pourquoi on me contrôle, qu'est-ce qui se passe, ah bon, tais-toi, t'as pas de la drogue, vous n'avez pas de la drogue, allez, monte tes affaires, la vie. Ils l'ont fouillé, palpé, regardé dans son sac, lui et son copain, bien sûr, mais ils se sont plus particulièrement acharnés, je pense, sur lui, parce que bon, il a demandé. Voilà, il ne trouvait pas ça normal. Il a demandé la raison pour laquelle on le contrôlait. Ah, t'es sûr que t'as pas de la drogue? Non, tutoiement. Ça a été assez brut. Hein. Ils lui ont fait enlever ses chaussures. Il s'est retrouvé sur le trottoir, en pieds nus, en chaussettes, voilà, parce qu'il voulait vérifier qu'il ne portait pas de la drogue. Voilà. Comment ça s'est passé, monsieur ?
Et ça, ça date de quand, en fait ?
Eh ben, c'était au printemps 2019.
Mais pourquoi vous ne vous êtes pas rapproché il y a des associations pour
ça ? Justement, c'est ce que j'ai fait. Quand je l'ai su plus tard, parce que je vous expliquerai après, je vous dirai ce que ça a produit chez D'accord. mon fils et sur la famille. Quand je l'ai su, je me suis dit, je ne vais pas laisser passer. Non. Alors déjà, ce n'était pas possible. J'étais révoltée, triste. À la fois, plusieurs sentiments se sont mêlés. De la tristesse, de la colère, de la révolte. Et je me suis dit, non, je ne vais pas laisser passer. Donc, quoi faire ? Aller porter plainte au commissariat, à l'hôtel de police de Grenoble ? Non, mais vous me voyez débarquer. Voilà, mon fils a été contrôlé. Bon, dans le meilleur des cas, le policier aurait peut-être pris la plainte et il aurait peut-être jeté à la poubelle. Moi, j'en suis là, je n'ai plus confiance là maintenant. Voilà. Donc, j'ai fait des recherches par Internet. Je me suis dit, il doit y avoir une procédure. C'est pas possible. On est dans un état de droit Exactement. En France. On doit pouvoir, il doit y avoir des procédures. Juste, je ne les connais pas. Donc, j'ai fait mes petites recherches sur Internet. Et puis, j'ai trouvé qu'on pouvait saisir le défenseur des droits. Ce que j'ai fait, je suis allée sur le site et j'ai envoyé le message suivant. Voilà, je suis madame telle. Mon fils s'est fait contrôler, par deux fois, et la deuxième, c'était plus choquant, quoi.
Et aujourd'hui, en tant que témoin, mm-hmm. n'avez-vous pas peur des conséquences plutôt négatives par rapport à la police ? Parce qu'il y a beaucoup quand même, ça les arrive,
oui.
mais
oui.
voilà.
C'est vrai qu'après coup, ça vous dites, ben oui, d'ailleurs, c'est pour ça que je ne pensais pas aller porter plainte à la police. Hein,
parce que vous avez peur que ça se retourne contre vous.
Il y a quand même une petite crainte, mais bon. Oui, quand même, mais je me dis, si on ne fait rien, si on part de ce principe-là, on n'aboutira jamais. Et puis, je ne suis pas seule. Donc, du coup, suite à ce mail que j'ai envoyé au défenseur de droit, j'ai eu les coordonnées d'une personne qui m'a contactée par la suite, et ce qui fait que j'en suis arrivée là. Mais à partir du moment où j'ai su que mon fils a été victime de discrimination, de contrôle injustifié, totalement injustifié et brutal, je me suis dit, je ne laisserai pas passer ça, je vais m'engager, justement, et pour combattre ça, le faire valoir, le faire savoir, et puis voilà, que les choses avancent. Je ne veux pas que mes petits-enfants puissent subir ça. Le combat démarre maintenant.
Merci Asnia, pardon, pour ce témoignage. Et donc, du coup, on va passer également à Naja Kira, qui est une élue conseillère départementale canton 1 de Grenoble Mistral Saint-Brino. Bonjour.
Bonjour.
Naja Kira, en tant qu'élue, de quelle manière êtes-vous concernée par ces questions de contrôle d'identité, en fait ?
Alors, il y a deux aspects. D'abord, ce que rappelait Asnia à l'instant sur la question de l'état de droit. La vocation, la mission des pouvoirs publics, c'est quand même de s'assurer que leurs services publics fonctionnent au mieux et qu'il n'y ait pas de dysfonctionnement, d'entraves lourdes, comme c'est le cas avec la question de ces contrôles aux faciès. Les contrôles aux faciès, c'est une discrimination lourde, violente, qui engendre des préjudices d'une violence extrême pour ceux qui les subissent. Et dans notre état de droit, personne, aucun élu ne peut accepter que les choses se passent de la sorte. Donc ça, c'est un premier point. Mmh. Et le second point, c'est vraiment l'idée que on a toute une catégorie de la population, des citoyens, qui sont traités à part, qui ne sont pas pleinement dans leur citoyenneté. Et ça aussi, c'est intolérable. On a commencé à le rappeler, mais cette discrimination-là, ces discriminations raciales, racistes, sont insupportables dans une démocratie, dans un état de droit, dans une république dont les fondements, je le rappelle, sont la liberté, l'égalité, la fraternité. Mais voilà, l'état de droit, il se fonde sur cette égalité. On ne peut pas accepter que nos services publics, et notamment la police, contreviennent à cette notion d'égalité qui est fondamentale pour notre cohésion sociale, nationale. Donc voilà ces deux aspects.
Merci beaucoup. On a aussi avec nous ici Christelle Bernard, l'initiatrice de toutes ces émissions. Christelle, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à tous ces propos, en fait ?
Bonjour à toutes et à tous. En fait, déjà, cette émission est le fruit, en fait, de tout un travail qui est mené sur Grenoble et l'agglomération depuis maintenant un certain temps et qui a permis de nous relier aussi avec les initiatives de Paris. Et comme le disaient Omer et Slim, des actions juridiques, en fait, ont déjà été gagnées, en fait, par les associations qui portent notamment cette action de groupe et qui permet, nous, en tout cas, au niveau local, de développer des activités sur des acquis Et là où c'est important, c'est qu'on a affaire en fait à des aussi des politiques, des administratifs, parfois des syndicats de police qui sont dans la, on le rappelle, enfin voilà, qui sont dans le déni en fait de cette situation de discrimination et qui sont assez du coup violents, virulents. Et cette action de groupe en fait portée par les associations de terrain et aussi des associations de défense des droits de l'homme permet de remettre en fait nos institutions dans un état de droit tel qu'il devrait être déjà. Et en tout cas, nous on soutient cette action de groupe parce qu'il est aujourd'hui important qu'en France, sur nos territoires et sur l'ensemble des territoires, nos jeunes, mais l'ensemble des habitants qui ont vécu, parce que c'est une histoire longue, historique, des contrôles d'identité violents qui amènent des fois à des humiliations, enfin des traumatismes, des fois des décès, cessent. Et voilà, je vais essayer de pas trop prendre le temps, mais cette série d'émissions est aussi là pour rappeler l'ensemble de ces situations, mais aussi les acteurs à la fois nombreux de terrain au niveau local, donc ça sera la prochaine émission, et au niveau national qui milite pour l'ensemble des droits de la population. Et ils existent. Et je pense qu'aujourd'hui, on a une étape en France sur l'ensemble des débats sur le racisme, l'islamophobie, etc., qu'il y ait quand même des notions de droit et, qui sont vraiment importantes et qu'il faut remettre sur la table au-delà de l'ensemble des discours politiques.
Avant de passer à la deuxième partie, j'aimerais bien qu'on retourne chez Omer et M. Benachour. Omer, qu'est-ce que vous avez à rajouter par rapport au témoignage que vous venez d'entendre de cette maman, en fait?
Mais ce que j'ai envie de dire à cette maman, elle a eu là, une très belle réaction. Et il ne faut surtout pas qu'elle ait peur, parce que le problème, c'est quand on a peur, on ne fait rien et on ouvre la boîte à ce que les excès augmentent et ne changent pas. Et qu'elle en parle autour d'elle, parce que c'est la mobilisation de toutes et tous, hein. Et je pense que qui font qu'on va peut-être pouvoir créer cette vague, ce tsunami qui va pouvoir faire évidemment changer les choses. Et j'ai envie de lui dire, oui, ben on est ensemble pour faire en sorte que nos petits-enfants, nos enfants et que les générations futures ne nous rendent pas coupables de ça, de n'avoir rien fait. C'est un témoignage qui me touche particulièrement et je l'invite à ne pas lâcher l'affaire et continuer à se battre. D'en parler autour d'elle pour que ce soit que la mobilisation soit la plus importante possible.
Et Maître Slim Benachour, vous qui êtes avocat également, que pouvez-vous rajouter à ces propos en fait?
D'abord que, enfin, je vais confirmer ce que dit Omer. Il est essentiel de se mobiliser parce que en ce qui concerne le droit ou les avocats ou la justice, elle ne peut fonctionner que si les citoyens, la population, les gens, les individus, les groupes se mobilisent. Sinon, on peut pas changer le monde. Donc ça, c'est la première chose que je peux dire. Deuxièmement, je ne sais pas si on aura l'occasion, en tout cas maintenant, c'est d'évoquer ce qu'on demande dans le cadre de l'action de groupe, parce que c'est effectivement un tournant dans l'histoire. Christelle y a fait référence, c'est un tournant dans l'histoire de la lutte contre le racisme, la discrimination raciale, dans le sens où, pour la première fois, on ne va pas demander des dommages d'intérêt, on va demander même la condamnation pénale d'un policier dont les autorités, on l'a vu dans le dossier Zicler, auraient aucun mal à dire « Ah, mais on vous remercie d'avoir agi, mais ça ne change rien du système, le système est plutôt bon ». Là, on vient pour changer les choses, pour quelque part tordre le bras de l'État, pour qu'il mette en place des mesures, une réforme qui mettra un terme définitif au contrôle aux faciès.
D'accord. Je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale. Et pour cela, je vous propose le titre de Rosé, Je chante la France. Une magnifique chanson d'ailleurs choisie par Christelle Bernard. On écoute.
J'ai la Marseillaise sifflée, le drapeau sous les semelles. J'ai le regard crispé sur ce pays et ses querelles. Le regard débridé, le pelage blanchi. Je bégaye presque sans plus d'accent les mêmes problèmes qu'il y a des décennies. Pays des droits de l'homme, alors vivent les femmes et sauvages. Tués par des hommes, même tuant leur propre image. Mais les chansons et les danses de résistance
dans leurs insultes intenses embellissent et chantent la France. Mon père a combattu Vichy et collaboration. Expert en faux papiers, sauve les victimes de trahison. Agir et résister quand la patrie perd la raison. Il offre l'humanité sans prendre l'accord du président. La clandestinité à cause de ses appartenances, de ses combats menés pour mettre justice dans la balance. La jeunesse, la santé sont cloîtrés dans la résistance. Pas français, pas de récompense, pas de problème, il sauve la France. Se créer la censure crée un long silence. Un silence qui couvre et qui étouffe les cris et les répliques aussi. Et le pays nous dit chante et chante et chante la France. Le secret et la censure créent un long silence. Un silence qui couvre et qui étouffe les cris et les répliques aussi. Et le pays nous dit chante et chante et chante la France. La pensée de négritude aux écrits d'Aimé Césaire, la langue de Kateb Yassine dépassant celle de Molière, installant dans les chaumières des mots révolutionnaires, enrichissant une langue chère à nombreux d'années de la terre. La pensée d'Olympe de Gouges dans une lutte sans récompense. Tous ces êtres dont la réplique remplace un long silence. Tous ces esprits dont la fronde a embelli l'existence. Leur renommée planétaire aura servi à la France. Nos pays lointains sont loin, mais fiers comme une mère. Patrie voyant son enfant parti, mais qui jamais ne l'oublie, qui défie l'intégration si d'amnésie il s'agit. Rentre dans la patrie si c'est pour en être grandi. Moi j'ai des pays cassés, ce ne sont pas des prothèses. Liés par parenté, je ne peux les mettre entre parenthèses. Et personne n'a à me dire le pied sur lequel je danse, qu'elle m'accepte comme être multiple et je chanterai la France. Le secret et la censure créent un long silence. Un silence qui couvre et qui étouffe les cris et les répliques aussi. Et le pays nous dit chante et chante et chante la France. Le secret et la censure créent un long silence. Un silence qui couvre et qui étouffe les cris et les répliques aussi. Et le pays nous dit chante et chante et chante la France. Pays jalousé par tant d'autres grâce à sa riche histoire. Mais à user le passé, on récolte respect trop mince. Alors on duplique la grande Amérique et sa victoire. Et à force de copier, on ne ressemble qu'à sa province. Et les ghettos s'agrandissent, s'appauvrissent, c'est romantique. Personne n'avait besoin de ça, la pauvreté à outrance. Quelle différence entre nous et le bougre outre-Atlantique. Allez savoir pourquoi c'est plus dur de chanter la France. Je n'irai pas en guerre, je n'ai pas de terre comme fierté. Je n'ai pas de terroir, mais des hectares de citoyenneté. Qui peuvent aussi se défendre à main armée. À force d'être intégré, on finira donc incarné. Quitte à chanter quelque chose, je chantonne l'humanité. Tout en demandant à ce pays d'admettre que telle est sa chance. Et quand les portes restent closes, il s'agit de s'impliquer. Car c'est de ces échymoses que peut se construire la France. Le secret et la censure créent un long silence. Un silence qui couvre et qui étouffe les cris et les répliques aussi. Et le pays nous dit chante et chante et chante la France. Le secret et la censure créent un long silence. Un silence qui couvre et qui étouffe les cris et les répliques aussi. Et le pays nous dit chante et chante et chante la France.
Nous voici de retour pour la deuxième partie de notre émission, à finir avec les contrôles aux faciès, des solutions en droit. En effet, depuis 2017, des associations, notamment des conseils citoyens indépendants de la ville de Grenoble, on souhaitait débattre de cette question et des temps d'échange et de réflexion. Christelle Bernard, vous êtes à l'initiative de l'ensemble de ces réflexions. Pouvez-vous nous dire pourquoi cette question est importante pour vous ?
Parce que je m'insère dans un cadre social avec, j'ai des amis, des proches, que ça soit dans mon univers personnel, professionnel, qui sont touchés en fait par ces discriminations. Et moi, je suis pas concernée dans le sens où j'ai jamais été contrôlée. J'ai jamais été contrôlée parce que je suis femme et en plus je suis blanche. D'accord. Mais je suis touchée par l'ensemble des violences en fait que mes proches et mes collègues subissent. Du coup, on a mené, ça fait depuis 2017, un ensemble de réflexions et pour faire un peu un état des lieux de là où on en était sur ces discriminations. Parce que comme je disais, comme on le dit tous, c'est des décennies en fait d'actions violentes contre une partie de la population. Et en fait, j'ai pu du coup tisser des liens avec notamment Slim Ben Achour et les associations de Paris qui mènent cette action de groupe, qui ont gagné un premier procès contre l'État. Et là, avec bien évidemment aucune quelque part réponse politique et systémique à cette question. Donc l'action de groupe qui est menée par ces associations est vraiment pour moi et pour nous fondamentale, dans le sens où donc on va laisser après la parole à Slim et Omer, mais qui est quand même qui vient déjà d'une loi qui a été votée par le Parlement et qui a été portée par Taubira, qui porte sur des moyens en fait juridiques qui nous permettent de modifier les politiques publiques. Et là, c'est vraiment dans ce cadre-là, ça nous permettra de modifier les politiques publiques de sécurité et du coup de nos liens avec le rapport, ce qu'on appelle le rapport police-population, d'apporter en fait un rapport positif avec nos policiers qui sont des services publics, on le rappelle, et qui sont là pour nous. Voilà.
D'accord. Ouais. Donc cette action de groupe, en quoi selon vous, aurait-elle un impact positif contre cette discrimination particulière? Et quelles sont les modifications politiques publiques qui vous semblent importantes à obtenir grâce à cette action de groupe?
Cette action de groupe, pour nous, elle est importante, elle est essentielle pour plusieurs raisons. Parce que ça permet de pouvoir tenter de faire quelque chose, puisqu'il est inscrit dans la Constitution française que quand on estime que nos élus, nos représentants élus font défaut, que les citoyens doivent prendre leurs responsabilités. Donc c'est dans ce sens-là que nous continuons et, avec cette action de groupe, et on va continuer avec d'autres actions également.
Exact.
Et aussi parce que ça doit contribuer à faire en sorte qu'une conscientisation la plus large possible de la population, et quand je dis de la population dans son entièreté, soit conscient de cette réalité-là et qu'on finisse enfin par œuvrer et contribuer à ce que, pour nous, quand je dis nous, citoyens issus de la diversité, que nous tentons d'aller vers l'égalité de traitement. C'est en ce sens. Et puis, dans ce débat, comme l'a rappelé tout à l'heure Christelle, du séparatisme et autres, vous savez, on est très vite, dès qu'on dénonce des problématiques au sein de la police, on est très vite catalogué d'anti-flics, d'anti-républicains, tout ce que vous voulez. Donc, on démontre qu'on utilise le droit et c'est ce qui, à mon sens, me semble tout aussi important. Et puis, on nous donnera pas notre dignité. Hein. Vous savez, notre dignité, on va se battre pour l'avoir. Un combat pour notre dignité, et quand je dis notre dignité, pas notre dignité uniquement de la communauté de diversité que nous sommes, mais de la République et de cette population, de ce peuple, pour être plus précis.
Maître Slim Benachour, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça?
Encore une fois, je vous remercie. Je vous remercie Christelle. Je remercie toujours Omer parce que sans la mobilisation des personnes, on n'y arrive pas. Et là, on va y arriver. On va y arriver parce que ça fait 10 ans que on pousse encore une fois sur le plan de la mobilisation et du droit, que pour être un peu plus technique, effectivement, Christelle y a fait référence, on a obtenu une grande victoire en novembre 2016, puisque la Cour de cassation a confirmé la condamnation pour discrimination raciale de l'État français, ce qui est symboliquement très fort. Et donc, on a attendu et on a fait délivrer une mise en demeure en novembre dernier, dénonçant bien sûr les contrôles aux faciès, mais dénonçant surtout l'inaction de l'État depuis la condamnation devant la Cour de cassation. Et aujourd'hui, on est très heureux de présenter une réforme qui est déclinée par Christelle à Grenoble, par Myriam du côté de Lyon, par Omer à Paris, en Ile-de-France, et par plein de personnes un peu partout. Qui décline cette réforme en disant d'abord, il faut modifier le cadre légal des contrôles d'identité en France. Hein, le gouvernement, en raison des particularités de la production des normes en France, le gouvernement a une grande importance et il faudra qu'il présente un projet de loi visant à encadrer les contrôles et faire en sorte qu'ils ne puissent pas être discriminatoires. Et on demande très simplement quelque chose qui est évident ailleurs, pas en France, mais qui l'est ailleurs dans beaucoup de pays, et qui dit que les contrôles dits administratifs, c'est-à-dire de prévention des risques de l'ordre public, doivent être supprimés. C'est-à-dire que, en réalité, il faut qu'on contrôle les gens comme on contrôle les gens dans le 16e arrondissement de Paris. C'est-à-dire, quand il y a une suspicion raisonnable, objective, individualisée, de commission d'une infraction. En d'autres termes, on doit contrôler les gens comme on contrôlerait une vieille dame allant faire ses courses, c'est-à-dire seulement quand il y a un problème. Et puis, je peux décliner tous les remèdes, mais je ne vais pas monopoliser la parole. Je vais juste vous dire qu'il faut qu'il y ait une traçabilité, c'est-à-dire que la personne qui est contrôlée, eh bien, se voit remettre un élément de preuve du contrôle, parce que ces contrôles, on y a fait référence, ils sont systémiques, ils sont systématiques, et donc c'est important pour quelqu'un qui allègue d'une discrimination raciste, discriminatoire, d'un contrôle discriminatoire, eh bien, qu'il puisse éventuellement en faire état auprès d'une instance, voire un juge, et puis y aller. Il faut protéger les mineurs qui peuvent être contrôlés, on le sait, à la sortie des écoles sans raison, voire pendant des visites scolaires. Il faut produire des cadres de formation, il faut une formation plus sérieuse, initiale, continue. Et arrêtez-moi parce que sinon je vais pouvoir vous parler pendant des heures. Non,
c'est important, vous dites, allez-y. Voilà. Nadia Kira, vous voulez rajouter quelque chose ?
Oui, je voudrais souligner le caractère collectif qui est vraiment important parce qu'il est porteur, ça permet de ceux qui vivent ça déjà, de celles et ceux qui vivent ça directement, de sortir de leur isolement et puis de casser la résignation. L'idée, c'est que voilà, collectivement, on réussit à porter des causes nécessaires et puis à avoir des victoires. Et celles-ci, elles ont été rappelées. Et voilà, cette dimension collective, elle est vraiment importante parce qu'elle permet de renforcer, de redonner du pouvoir à notre citoyenneté, à notre pouvoir d'agir, à notre pouvoir de changer les choses. Et là, c'est ce qu'on voit. Alors, je suis pas en train de dire, évidemment, que tout est fait, loin s'en faut. Mais en tous les cas, ça permet, voilà, de redistribuer les cartes. Et ça, c'est des messages qui sont importants à faire passer. Et un autre aspect aussi, c'est l'idée des représentations. Slim Ben Achour a rappelé ici les éléments concrets, hein, sur lesquels on peut s'appuyer, qui sont des leviers. Mais il y a aussi cette question de l'imaginaire collectif. Et quand on dénonce ces discriminations raciales, eh bien, on contribue, voilà, à changer nos représentations, notre inconscient collectif, pour faire en sorte que notre identité spécifique, culturelle, religieuse ne soit plus perçue comme un problème, qu'elle soit certes perçue, mais qu'elle ne soit pas une entrave à cette citoyenneté pleine et entière. Donc, il y a aussi cet enjeu, voilà, sur les représentations collectives, sur notre imaginaire qu'il faut renouveler, sur lequel il faut souffler un vent de renouveau. Et voilà, ce type d'action y contribue.
J'aimerais rebondir un petit peu sur ce que vient de dire Nadia et Omer aussi, dans le sens où le contrôle qu'a subi mon fils, ça ne s'est pas passé dans une cité, dans un endroit, c'était en plein centre de Grenoble, le deuxième, voilà. Et surtout, ce que voilà, je vois mon fils qui me dit ben voilà, donc il s'est retrouvé pieds nus sur le trottoir en plein centre de Grenoble, et puis les gens qui passaient, les passants, je veux dire, ça ne les a pas interpellés plus que ça. Si mon fils était entouré de policiers avec son copain, qu'ils étaient palpés, fouillés, ben, les passants ont dû se dire ben oui, s'il fouille ces deux jeunes là, s'il les contrôle, ben c'est qu'il doit y avoir une bonne raison. Mais non, et je crois que c'est ce qu'il faut, c'est peut-être le message que voilà,
des stéréotypes,
tout
c'est ça
à fait,
que vous voulez dire.
Voilà, si se font contrôler, c'est qu'il doit y avoir une bonne raison. Non, ça n'était pas légitime, pas du tout. Voilà.
Omer, il voulait rajouter quelque chose.
Non, je voulais juste rebondir sur ce que vient de dire Asnia, puisque ce qu'elle vient d'illustrer là, c'est vraiment la stratégie et la politique d'assignation à résidence. On est surcontrôlé quand on est dans nos quartiers, mais quand on va en ville, on est aussi surcontrôlé parce que c'est une façon de nous dire vous n'êtes pas les bienvenus. Hein. Donc là, vous mettez en évidence un des aspects systémiques de ces contrôles d'identité, puisque c'est le présupposé, c'est les préjugés que ça renvoie, et sur lequel l'État, on va le dire de façon très claire, joue d'une grande hypocrisie, parce que ça permet de nourrir un certain nombre de politiques, ça permet de nourrir un certain nombre de stratégies politiciennes aussi, et on n'a qu'à voir dans ce qu'on est aujourd'hui et ce qu'on peut entendre dans nos chaînes, sur nos chaînes de télé, nos radios.
Maître Ben Achour, vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ce que vient de dire Madame Asnia ?
Non, j'ai vraiment... Je préfère laisser la parole... Non, tout ça est particulièrement fondé. Et vous pouvez... Je me dispense de commenter là, au-delà.
D'accord.
Je vais prendre la parole.
Ok, allez-y.
En fait, c'est juste... je pense qu'il est important, c'est de montrer effectivement l'impact de ces contrôles d'identité sur... ben, sur la société et le fait que la plupart des personnes en fait qui ne sont pas concernées dans le sens pas concernées du problème mais concernées dans le sens, qui ne sont pas contrôlées, ce qui est une vraie différence. On a en fait beaucoup n'ont pas l'expérience de ces contrôles d'identité, ce qui fait que ça renforce ce séparatisme en fait de la population. Ils ne peuvent pas quelque part se rendre compte vu qu'ils n'ont pas l'expérience que la police en fait et l'État est responsable en fait des discriminations et on renvoie toujours les citoyens, même on va faire plein de projets, on va financer des projets sur les discriminations. Oui, il faut éduquer la population à ne pas discriminer, sauf que ça se passe pas comme ça. Ce sont les institutions qui discriminent, les entreprises, les responsables politiques qui engendrent des politiques de discrimination. Et ça, enfin, c'est un fait et c'est dans ce sens-là qu'il faut absolument agir en fait et remettre les responsabilités sur les bonnes institutions. D'où cette action de groupe qui est fondamentale et d'où cette première victoire qui est aussi extrêmement symbolique et qui permet de mettre les institutions face à leurs responsabilités politiques et démocratiques. Donc on ne peut pas individuellement changer les rapports de la police. Et c'est là où cette action collective, comme elles l'ont rappelé, est vraiment importante. Et les solutions en fait proposées par l'action groupe sont aussi importantes. Donc là, j'en profite pour vous renvoyer au site internet marumedroit.org où les hashtags. Alors moi, je suis pas très férue des sites internet, des réseaux sociaux, mais marumedroit. Il y a également un numéro de téléphone que vous pouvez contacter. Et là, sur le site internet, il y a l'ensemble en fait des solutions qui seront imposés. Je pense que c'est Slim qui devrait vraiment peut-être nous parler sur ça, c'est-à-dire les solutions, parce que cette action de groupe, en fait, elle va vraiment imposer des mesures concrètes que l'État va devoir souscrire pour faire en sorte que ces situations n'arrivent plus.
D'accord. Vous avez quelque chose à rajouter sur la table ici avant que je... Parce que je vais passer à Maître Slim Benachour, à vous. Je ne vous lâche pas.
Non, mais là, c'est bon. De dire quelque chose sur, je dirais, la contribution des juristes. Alors, elle est essentielle parce que c'est une action judiciaire, mais elle est juste une contribution parmi, encore une fois, toutes les actions qui sont menées. Et on apprécie vraiment aussi la contribution des autorités publiques, que ce soit des municipalités, des politiques qui soutiennent cette action. Alors, en réalité, ce qu'on va faire, c'est via le droit, via une saisine judiciaire qui aura lieu s'il n'y a pas de proposition de discussion formulée par l'État après la mise en demeure que nous avons faite, eh bien, il s'agira, via le droit, de réformer la pratique, la politique des contrôles d'identité en France. En réalité, on contribuera à la réforme d'une culture, une culture policière, et je commence par la culture, et j'utilise un mot important de culture, parce que je dirais la première chose à laquelle on a pensé, c'est bien évidemment qu'est-ce que c'est qu'être policier en France à l'occasion des patrouilles durant lesquelles vous avez les contrôles d'identité. Et se pose nécessairement la question de la finalité des contrôles d'identité. Et se pose la question la politique du chiffre. Et donc, l'idée, c'est de faire comprendre aux autorités, aux policiers, que le chiffre, ça peut être justement qu'il n'y ait pas de discrimination. C'est de ne pas interagir, en tout cas de façon malveillante ou dangereuse, en direction d'une population ciblée, quand il n'y a absolument aucun problème. Et donc, il faut apprendre aux policiers, et s'ils sont en patrouille, à ne pas contrôler. Et d'ailleurs, cela pourrait être un indicateur que les policiers qui contrôlent sans motif ou contrôlent mal, eh bien, soient sanctionnés ou ne puissent pas justement utiliser le nombre de contrôles d'identité comme une variable participant à la valorisation de leur carrière. Donc on parle de culture, mais on parle à travers la culture, on parle aussi de la formation, j'y ai fait référence tout à l'heure, je ne veux pas revenir. On va parler d'une instance qui pourra recevoir des plaintes Et cette instance, elle a pour mission d'être effective. Et elle sera nécessairement indépendante parce qu'elle ne pourra pas être effective si elle n'est pas indépendante. Et elle devra, elle pourra avoir plusieurs fonctions. C'est d'une part traiter de l'accueil de ces plaintes. Et puis également, cette institution pourrait être un maillon, voire l'institution qui permettrait aux autorités de savoir, sur une base anonyme, de savoir comment on contrôle en France. Quel est le nombre de contrôles d'identité réalisés en une semaine, en un mois, en un an en France, dans telle région, dans telle ville, pour justement évaluer l'efficacité des contrôles d'identité. On est guidé par des exemples à l'extérieur. Hein. En gros, on sait maintenant que le contrôle de routine, eh bien, il n'est pas efficace. Hein. Et il n'est pas efficace, il est inutile, il est dangereux. Et donc, bah, on sait maintenant, c'est une conclusion assez évidente, que si on contrôle pour des raisons objectives, on contrôle beaucoup, beaucoup moins et on contrôle beaucoup, beaucoup mieux. Sans connaître une augmentation de la délinquance. Voilà, donc je suis désolé, je ne connais pas le format, mais je peux vous parler vraiment des heures, donc je préfère vous rendre la parole et répondre effectivement peut-être à des questions, mais voilà, il s'agit de changer la culture.
Nadja Kira, vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ça ?
Oui, effectivement, changer la culture, c'est exactement l'enjeu, parce que ces discriminations, on les retrouve dans différents services publics, à différents niveaux. Et avoir en tête que c'est absolument nécessaire pour justement aborder une réforme selon la bonne méthode. Et du coup, voilà ce caractère structurel qui a été décrit là. On le retrouve à différents niveaux et il faut aussi bien avoir en tête qu'on vient d'une histoire qui explique notre situation actuelle. Et donc, c'est autant d'éléments qui sont... Qui explique notre situation maintenant, qu'il faut avoir d'accord. en tête pour comprendre ce qu'il en est.
D'accord. Comme que nous sommes en train de trouver des solutions ou de parler des solutions, je reviens à vous, Madame Asnia, vous qui êtes une maman de victimes. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez à dire à l'État français pour que tout ça cesse en fait ?
Alors d'abord au niveau de l'impact que ça peut faire créer chez ces jeunes. Et puis dans les familles, vous savez, c'est donc, je l'ai dit tout à l'heure, on passe par différentes émotions, des sentiments, la tristesse, la colère, la révolte même. C'est que ces contrôles sont appliqués de manière aléatoire comme ça, sans motif, sont contre-productifs. Ils ne servent... Alors déjà, nous, quand on est contrôlé, la famille, vous savez, c'est un véritable traumatisme. Je vous le disais tout à l'heure, mon fils m'en a pas parlé tout de suite. Je pense que c'est un mécanisme de défense aussi. C'est tellement attaquant, ça vous agresse dans ce que vous êtes, dans votre identité profonde. C'est une manière de vous, de vous discréditer totalement, de faire partie intégrante de cette société française. Comme disait Maître Slim Benachour tout à l'heure, pourquoi ne pas contrôler comme on fait pour une vieille dame ? Non, c'est la brutalité avec laquelle c'est fait, quoi. Enfin, voilà, c'est... Alors ça, d'une part, c'est contre-productif parce que, jusqu'à maintenant, pour moi, la police, dans nos valeurs, dans nos communes, c'est la police, elle est là pour nous protéger, pour... Exact. Eh bien, non, je me rends compte que non. Je n'ai plus confiance, Puis ça s'est répété, par deux fois, c'est contre-productif et c'est... Non, ça ne va pas dans le sens. Ça va augmenter les clivages entre la police, les jeunes, les Français d'origine, maghrébine ou qui ont une couleur de peau qui fait que elle n'est pas dans la norme gauloise, on va dire.
D'accord. Merci pour ce témoignage très touchant. Omer, vous avez quelque chose à dire parce qu'on est en train d'arriver à la fin, en fait. Donc, si vous avez quelque chose à rajouter, n'hésitez pas, parce que c'est un combat pour nous tous. On veut que les choses soient dans l'ordre, en fait. Donc, voilà.
Oui, mais ce que je peux dire aux citoyens de votre région, c'est de se mobiliser. On a un site internet qui s'appelle Ma rue, mes doigts, où les gens peuvent trouver de l'information, déposer des témoignages. Donc, voilà, c'est, je dirais... mobilisez-vous, organisez-vous. Nous, on est là, on est prêts à faire un long bout de chemin ensemble. Et donc, oui, c'est appelé une grande mobilisation, puisqu'on a, on a besoin d'étoffer les choses, donc, et d'actualiser en permanence. Donc, si vous avez des voisins, des voisines, des jeunes qui subissent ce type de contrôle, invitez-les à aller sur cette plateforme et utiliser le numéro, la ligne de téléphone pour poser leur témoignage, raconter leur contrôle. Ça nous est bien utile pour pouvoir documenter et démontrer que cette réalité-là existe bien sur l'ensemble du territoire et pas limitée à Paris et sa banlieue parisienne.
Merci, le message est bien passé. Maître Slim Benachour, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour la fin en fait ?
Non, je vais juste vous remercier, et particulièrement Christelle, pour tout le travail qui est accompli à Grenoble. Grenoble, c'est une place forte de la lutte. Merci à Christelle, merci à vous, merci aux Grenoblois de vous mobiliser.
Merci également, Nadia Kira.
Je trouve qu'on est dans un moment quand même qui est historique, parce qu'on a une mise en lumière avec ce qui se passe autour de ces questions de racisme structurel. On a une mise en lumière avec différentes mobilisations, donc cette action de groupe qui existe depuis plusieurs années, vous l'avez rappelé. On a eu, avec ce qui s'est passé aux États-Unis et le mouvement Black Lives Matter, ou en France encore, avec le comité Adama. Donc, on a tous ces moments, tous ces mouvements qui convergent pour que, justement, cette réforme culturelle, ce renouvellement des représentations, voilà, ait lieu. Et c'est vraiment le moment de continuer la lutte et d'espérer une victoire.
Et on espère bien. Et Christelle, et quelques mots pour la fin de cette première émission.
Peut-être que revenir sur à la fois les témoignages, le besoin et le retour à la parole quelque part, parce que quand on a été violenté, c'est aussi ou humilié, et puis quand c'est des pratiques en fait qui sont courantes, régulières, systémiques et aussi historiques, des fois on a l'impression qu'en fait tout ça ne sert à rien. Donc il y a un mécanisme de, on appelle ça, de banalisation en fait, et puis de ces pratiques, et en fait on n'a jamais assez, on le répète jamais assez, mais la parole est très importante. Exact. Et je le dis aussi souvent, c'est-à-dire que si il y avait pas des jeunes, des collègues qui m'avaient parlé de leur situation, peut-être que j'en serais jamais arrivée là. Donc la parole n'est jamais anodine. Et il y a des personnes qui sont là pour la prendre en charge aussi, cette parole, parce qu'effectivement, de parler aussi, seulement parler ne sert à rien. Quand on n'a pas des organisations aussi en face qui prennent en charge cette question-là, et que cette action de groupe est aussi importante parce que, comme je le disais tout à l'heure, hein, c'est aux institutions aussi de prendre en charge la parole des victimes, parce que ça reste c'est des questions, comme elle disait Asnia, très très violentes, dégradante, humiliante, et qu'il est aussi difficile d'en parler des fois. Et voilà, mais je pense qu'il y a un réseau à la fois de professionnels, mais associatifs, citoyens, des élus, et que voilà, on peut pas laisser on peut pas laisser la lutte comme ça.
Oui. On ne peut pas laisser la lutte comme ça, c'est exact. Donc voilà, merci à toutes et tous. On arrive à la fin de cette émission. Cette première qui est consacrée à l'action de groupe, les enjeux et à la modification des politiques publiques. Vous tous ici, vous avez donné des réponses. Ça reste maintenant à passer à l'action en fait. Et surtout, on remercie aussi la maman Asnia qui est venue témoigner parce que c'est très très important. Merci. Donc voilà. Merci. Du coup, on se donne rendez-vous pour demain en fait avec de nouveaux invités également. Merci d'avoir répondu présent.
Et merci à toutes les associations là qui m'ont soutenue et sans laquelle je serais pas là actuellement. Pour témoigner, pour que les choses avancent. Et c'est en parlant. Merci.
Donc du coup, si vous êtes victime de ce genre de contrôle, n'hésitez pas à porter plainte, n'hésitez pas à vous rapprocher des associations. Il y a des gens pour vous soutenir parce que c'est quelque chose qui n'est pas normal en fait.
Oui.
Parce que le fait, on ne refuse pas d'être contrôlé en fait, mais oui. c'est la manière d'être contrôlé qui n'est pas bien. Parce que voilà, si on se fait contrôler, parce que tout simplement, on est noir ou arabe ou je sais pas quoi. Donc, on va se sentir l'écart, en fait, alors que ça doit pas être le cas.
J'en profite pour vous remercier parce que le temps que nous passons là et l'écho que ça peut avoir chez d'autres est extrêmement important. Parce qu'il faut, pour qu'elle réussisse aussi, il faut que l'organisation et la pression du pays s'organise, s'effectue. Donc parlez-en autour de vous et invitez les uns et les autres à se renseigner et voir comment ils peuvent coopérer avec celles et ceux qui sont déjà engagés dans cette action de groupe qui nous est extrêmement important, parce que c'est aussi une façon pour nous de nous inscrire dans une dynamique de résilience et contribuer à renforcer un peu notre sentiment d'appartenance à la communauté que nous sommes.
Merci beaucoup. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Un grand merci également à nos invités de près et de loin qui participent à cette série d'émissions pour dénoncer et trouver aussi des solutions à tous ces problèmes dus à la discrimination et du contrôle aux faciès en France. Et on se donne rendez-vous demain à la même heure, 13h sur le zone du 101.2. Bon appétit à tous.